Genèse chapitre 1. Mais avant ça, j'aimerais vous parler de la parole. Alors quand je dis de la parole, vous imaginez que je vais vous parler de la parole de Dieu. Mais avant ça, je voudrais vous parler de la nôtre. Nous, au XXIe siècle, on envoie peut-être quelque chose comme 300 milliards d'emails par jour entre nous. Par jour. On est tout le temps connecté et prêt à communiquer par texto, par vocaux, par vidéo. On peut parler instantanément ou presque à l'autre bout de la planète, à n'importe quelle heure, à un coup dérisoire. Je crois qu'on peut dire qu'on communique beaucoup plus qu'avant. Mais je ne sais pas si on peut dire qu'on communique beaucoup mieux qu'avant. Je crois qu'on dit plus de choses, mais peut-être pas qu'on dit mieux les choses. Maintenant, c'est fascinant de voir comme Internet, les réseaux sociaux sont devenus un espace, un endroit, pour dire son opinion. Et alors, on en a plein. On devient doué pour dire des choses, mais peut-être pas pour mieux communiquer. On va faire une retraite de pasteurs, la pastorale nationale bientôt, sur le thème de la communication bienveillante. Et dans ce sens-là, je me prépare à faire un enseignement avec d'autres à propos de ce thème. Et pour réfléchir sur le langage, la communication, je vais vous emmener dans Genèse chapitre 1. On va lire deux petits passages. On va lire les cinq premiers versets. Et puis, on va lire la création de l'homme aussi. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe, vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit, « Que la lumière soit !» Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Et je vais passer directement au verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Et Dieu créa les humains à son image, il les créa à l'image de Dieu, mâle et femelle, il les créa. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Et je m'arrête là. Nous avons un Dieu qui a créé toute chose par sa parole et qui, le premier, dans le froid et la nuit glaciale primitive, a parlé. Il a parlé. Dans les mythologies anciennes, les dieux puissants ont vaincu les forces du chaos à coups de puissance et de pouvoir et d'armes. Mais le Dieu de la Bible repousse les ténèbres et le chaos par sa parole puissante. Il ne livre pas combat. Il parle et la chose advient. C'est comme si la réalité devait se plier en 4 pour ne pas faire mentir Dieu. Et si Dieu dit « il fait beau à Vauvert », il fait beau à Vauvert. Mais que fait Dieu avec sa parole ? Oui, il crée, mais cela ne s'arrête pas là. Il qualifie de bon. Il va distinguer, séparer ce qui est mélangé. Il va nommer, labelliser, étiqueter. Et même plus loin avec les humains, on voit qu'il va mandater, missionner. La terre était sans forme et vide. Informe et vide. Elle était toute mélangée, indistincte et sans rien dedans. Elle n'avait pas de sens et personne ne l'habitait. Vous savez, c'est un peu comme si vous visitiez une maison qui est en train d'être construite sur plan. Vous avez les murs porteurs et puis l'intérieur est un espace relativement vide. Il est indistinct. À quoi il peut servir cet espace ? Ben, plein de choses, mais à quoi il sert ? Ah, là maintenant, à rien. Puis vous visitez avec l'architecte qui vous dessine avec le doigt peut-être les cloisons, les parties. Il va dire, on va distinguer entre cet espace et cet espace. Celui-ci servira à ça et celui-là à ceci. Et on va remplir cet espace avec des ustensiles pour cuisiner et remplir cet espace avec des choses pour dormir. Dieu distingue, Dieu donne un sens par sa parole, Dieu repousse les ténèbres par sa parole, il chasse la confusion, il apporte de la clarté. Et Dieu bénit par sa parole. Il donne un sens, une direction, un mandat. La parole de Dieu, et je ne parle pas de la Bible, je parle du langage de Dieu, ce qu'il fait des mots est bon. On va continuer une petite lecture au chapitre 3 de la Genèse. Et certains me voient venir. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il a dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme dit au serpent, « Nous mangeons des fruits, des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'y toucherez pas, vous n'en mangerez pas, pardon, et vous n'y toucherez même pas, sinon vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, « Mais vous ne mourrez pas du tout. » Mais ah, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Ah oui. Et que vous serez comme un dieu. Comme des dieux, pardon, qui connaissent le bien et le mal. Et je m'arrête là. Le serpent, qu'on appelle le diable, invente un nouveau concept. Le langage, les mots qui jusqu'à présent ont servi à donner de la clarté, à distinguer entre les choses confuses et mélangées, à nommer, à donner du sens, à bénir, il s'en sert pour obscurcir, pour semer le doute, pour perdre, pour brouiller les pistes, pour changer le sens et la direction. Il s'en sert pour maudire. Et Adam et Ève, pour la première fois de leur existence, sont confrontés à un phénomène qu'ils ne comprennent peut-être pas très bien. Ils doivent choisir entre deux prétendues vérités. Deux protagonistes, deux personnes qui prétendent brandir la vérité, et il faut choisir. Le doute s'installera Et vous savez, la suite de l'histoire, ça se passera mal. On ne va pas se cacher, nous sommes un peu tous des héritiers de Adam et Ève dans cette histoire. Et on a un peu tous appris, avec le langage, parfois à un peu obscurcir, parfois un peu brouiller les pistes, parfois un peu détourner le sens, mais pas trop comme ça. Parfois un peu cacher, voire carrément tordre. Et puis même, on sait, avec les mots, faire du mal, attaquer. Alors parfois on attaque par pure méchanceté, parfois on attaque par défense. Vous savez, des fois on se cache, ou on cache des choses à l'intérieur de nous, puis les autres, ils jettent des mots qui tombent un petit peu trop près de là où on se cache. Et on va se défendre avec des mots. On a appris plein de choses avec le langage. Et pas des choses forcément qui viennent de notre Dieu. Je vous emmène dans l'évangile de Jean, parce qu'on m'a dit de ne pas faire très très long. Au chapitre 10. Ah non, pardon, 8. Évangile de Jean, chapitre 8. Vous connaissez hein, tous ces moments où, dans notre cœur, on sait que là, avec les mots, on appuie un petit peu plus sur ceci, ou on va utiliser ce synonyme-là pour... se faire un peu d'espace, pour se mettre un peu plus à l'aise. Moi, je le fais, c'est pas bien. Je comprends pourquoi je le fais, je comprends pourquoi j'éprouve le besoin de me protéger comme ça. Et en même temps, je suis fasciné par ce Dieu qui m'attire à devenir quelqu'un dont les mots sont fiables. On voyait avec le caté ce jeudi, le mot vrai en hébreu, hemet, il ne veut pas dire c'est vrai, ça existe, c'est réel. Il veut plus dire c'est fiable. Si un mur il est vrai, vous pouvez vous appuyer dessus. Si une table elle est vraie, vous pouvez monter dessus. Si un homme ou une femme est vrai, vous pouvez compter dessus. Si une parole est vraie, vous pouvez peser dessus. Et dans ce sens-là, notre Dieu a une parole vraie. Et dans ce sens-là, il nous appelle, nous, ses enfants, à apprendre comment avoir une parole fiable. Et justement, Jésus appelle à cela. En Jean 8, au verset... 31. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, si vous gardez ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Et là, ils répondirent, nous sommes la descendance d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu, vous serez libres? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Mais l'esclave, il n'appartient pas à la maison pour toujours. Le fils, l'héritier, lui, demeure toujours. Si donc le fils vous rend libre, vous affranchit, alors vous resterez libre toujours. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve pas de place en vous. Moi, je dis ce que j'ai vu chez mon père. Et vous, vous faites eh bien, ce que vous avez entendu chez votre père. Ils répondirent, mais notre père c'est Abraham. Il leur dit, si vous étiez vraiment les enfants d'Abraham, ben vous feriez les œuvres d'Abraham. Maintenant, ben vous cherchez à me faire mourir. Moi, un homme qui vous dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu, ben ça Abraham ne l'a jamais fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils dirent, mais nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous n'avons qu'un seul père, c'est Dieu. Et il leur dit, ah, si Dieu était votre père, et vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Et pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Mais parce que vous ne pouvez pas supporter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne s'est pas tenu dans la vérité. Parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même. Hein, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas? Alors qui de vous me convaincra de péché. Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu, et vous ne m'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Je m'arrête là. Jésus veut les sauver. Il veut les encourager à aller encore plus loin. Il commençait à croire en lui, il veut qu'il s'attache complètement à lui pour les sortir de ce royaume de ténèbres et les emmener dans son royaume de lumière. Gardez mes paroles, gardez-les, elles vont vous libérer. Ah, nous libérer? Quoi? Tu dis qu'on est des esclaves? Et là, ça pique. Et les chefs religieux, dans leur cœur, veulent le faire mourir. Ils ne le disent pas, le texte ne dit pas qu'ils veulent ça, mais Christ le sait. Et Christ veut les démasquer. Si vous avez des telles intentions dans le cœur, ça ne peut pas venir de Dieu. C'est que ça vient du diable. Et j'ai envie de vous attirer, d'attirer votre attention sur cette réalité. Ces stratégies, toutes ces stratégies de langage qui obscurcissent, qui détournent, qui perdent, qui blessent, qui humilient. Elles ont un auteur, un inventeur, et c'est pas le Seigneur, c'est le diable. Et je crois que parfois dans ma vie, je me rends pas assez compte de qui a inventé ces méthodes, de qui a inventé ces techniques-là. Et pourquoi il l'a fait dans ma vie. Jacques, le frère de Jésus, dit, mes amis, une source d'eau, est-ce qu'elle donne de l'eau douce et en même temps de l'eau salée? Est-ce que votre robinet dans votre maison, il peut faire couler de l'eau usée en même temps que de l'eau propre? Mes amis, dit Jacques, votre bouche, elle devrait être une source d'eau pure. Voilà. Mais on est comme ça que, par la même bouche qui bénit le Seigneur, nous maudissons l'humain qui est fait à l'image du Seigneur. Vous savez, le Seigneur nous a dit, aimez-vous les uns les autres, et c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous verront que vous êtes mes disciples. Des fois, pour moi-même, hein, je me dis, il y aurait presque 70 à 80 du travail de aimez-vous les uns les autres qui serait fait si on apprenait à parler correctement. Peut-être pas. Au moins la moitié. Mais vous savez, on n'y arrivera pas de notre vivant à devenir, comme dit Jacques, des adultes en Christ, des hommes et des femmes à qui il ne manque rien. Jacques, il dit, si tu maîtrises ta langue, t'as fini. Ça y est, t'es arrivé au top. Si tu maîtrises ta langue, tu commets plus de fautes avec ta langue, tu blesses plus. Tu n'utilises plus toutes ces stratégies d'obscurantisme du diable. Tu es un homme, une femme accompli. Moi, je n'y arriverai pas de mon vivant. Mais j'ai envie d'y travailler. Parce que j'ai envie de ressembler au Seigneur. Parce que j'ai envie que l'effet que le Seigneur me fait, que l'effet que le Seigneur, ma relation avec le Seigneur a sur moi, je puisse en faire couler une partie autour de moi. C'était très intéressant, Bruno, on ne s'est pas consulté, a axé sa prédication sur comment est-ce qu'il peut peser dans sa vie sur qui est le Seigneur pour moi. Comment est-ce que je fais m'appuyer sur ce que le Seigneur va être demain, pour moi. Eh bien, je peux m'appuyer dessus parce que notre Dieu est fiable en parole. Parce que la parole de Dieu, elle est solide et on peut compter dessus. Parce que Dieu ne veut jamais utiliser les mots pour perdre. Parce que Dieu ne veut jamais utiliser le langage pour déguiser. Pour faire croire que. C'est pas son truc. Même quand il est en colère et qu'il va punir, il dit, écoute, c'est triste, mais c'est intéressant aussi. Moïse, il va partir là, le peuple va rentrer en Canaan, puis Dieu lui a fait comprendre qu'il ne rentrerait pas à lui. Donc il fait un peu son au revoir au peuple, à la fin du Deutéronome, et il dit, voilà, moi je vous préviens, quand vous serez rentrés dans le pays, si vous marchez avec le Seigneur, eh bien, vous serez bénis, si vous ne marcherez pas avec le Seigneur, eh bien, vous serez puni. D'ailleurs, vous ne marcherez pas avec le Seigneur. Et puis, il va vous punir. Et vous n'écouterez pas. Et puis, il va faire tomber toutes les punitions. Et puis, vous n'écouterez toujours pas. Alors, il va vous emmener dans un autre pays. Et là, vous allez pleurer. Et vous allez l'invoquer. Et vous savez quoi? Eh bien, il va se laisser toucher. Il va vous prendre. Il va vous ramener. Enfin, Dieu, il déguise tellement pas les choses. Dire, lequel des parents ici va dire, écoute, si tu fais ça, t'auras une punition. Puis après, tu vas pleurer. Et bon, je vais me laisser toucher et je vais te pardonner. Vous faites ça avec vos enfants? Vous annoncez toute l'histoire qui va se passer? Non? Moi, je sais pas. Bon. Benoît, tu vas désobéir, il va y avoir une dispute, puis du coup on va s'énerver, et là bah, tu seras puni, et tu iras pleurer dans ta chambre, puis moi et maman on va discuter, puis on va venir te voir, on va dire bon, c'est bon, tu peux sortir. On raconte pas les choses comme ça. Mais notre Dieu, il est tellement fiable. Il utilise tellement les mots pour nous attirer à lui, pour nous garder tout contre lui. Pour qu'il n'y ait pas de... Vous savez, dans ces contrats, le petit caractère gris clair en bas. La linéa 12 que vous n'aviez pas lue qui fait que... Ah, il y a des clauses de remboursement que vous ne connaissiez pas qui... En fait, vous les connaissiez. Elles étaient juste écrites en gris clair en bas de la page. Notre Dieu, il n'est pas comme ça. Parfois, on ne comprend pas ce qu'il dit. Parce que c'est compliqué. Ou parfois on ne comprend pas ce qu'il dit parce qu'il ne pense pas du tout comme nous. Mais il ne veut pas le dire pour nous perdre. Il ne veut pas le dire pour obscurcir les choses. Il ne veut pas le dire pour se rendre plus intelligent et nous dominer. Non, en fait, il est juste tel qu'il est lui. Je vais vous laisser avec ces mots de Jésus. Dans Jean 14, Jésus va partir. Les disciples commencent à comprendre qu'il va y avoir le départ. Et il dit ça. Ça en fait écho avec la peur et la crainte dont Bruno a parlé. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Et ayez aussi confiance en moi. Il y a beaucoup de place, beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Mais sinon, je vous l'aurais dit. Car je vais vous préparer une place. Si je vais vous préparer une place, alors je reviendrai vous prendre. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen.